Et c'est marquant. Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du prix du progrès, ça s'appelle comme ça, d'Aldous Huxley. Bon, pour beaucoup, Aldous Huxley, vous savez qui c'est, mais on va y revenir amplement. C'est aux éditions L'Échappée, ça vient de sortir, si je puis dire, c'est sorti en novembre 2025. 312 pages, 22 €, je vous le dis tout de suite, ça les vaut largement. Il y a une préface de José Ardil, des textes sélectionnés et introduits par Pierre Tessier, et c'est traduit de l'anglais par Frédéric Joly. Alors, c'est un livre, je viens de vous le dire, des textes sélectionnés, tout simplement parce que ce livre compile un certain nombre d'articles faits par Aldous Huxley ou d'extraits de certains de ses livres, puisque c'est quelqu'un qui était très abondant. Alors, on rappelle ses dates, hein, Aldous Huxley, il est né le 26 juillet 1884 au Royaume-Uni. Il est mort le 22 novembre 1963 à Los Angeles. Il a été écrivain, bien sûr, romancier, philosophe britannique. Il est diplômé de l'université d'Oxford avec une mention très bien littérature anglaise, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages connus surtout pour au moins un de ses romans qui est Le meilleur des mondes, qui est un roman d'anticipation dystopique, connu aussi pour des ouvrages non romanesques comme Les Portes de la Perception qui retrace les expériences vécues lors de la prise de drogue psychédélique, également pour un large éventail d'essais. Et au début de sa carrière, Huxley a dirigé le magazine Oxford Poetry et publié des nouvelles et des poésies. Alors au milieu de sa carrière, plus tard, il a publié des récits de voyage, des scénarios cinématographiques. Vous voyez, il touchait à beaucoup de choses. Il a passé la dernière partie de sa vie aux États-Unis. Il vivait à Los Angeles de 1937 jusqu'à sa mort. Et en 1962, un an avant sa mort, il est élu compagnon de littérature par la Royal Society of Literature. C'était un humaniste, Huxley, pacifiste, satiriste. Il s'est également intéressé à des sujets spirituels comme la parapsychologie ou le mysticisme philosophique, en particulier l'universalisme. Et vers la fin de sa vie, Huxley fut largement reconnu comme l'un des intellectuels prééminents de son temps. Il a même été nommé cette fois pour le prix Nobel de littérature. Donc vous voyez, un garçon qui a eu une vie de réflexion, une vie d'intellectuel, une vie d'écrivain. Et aujourd'hui, la maison L'Échappée, ben, nous donne ce livre. Alors L'Échappée, c'est une maison d'édition, bien sûr, française, installée à Paris, qui est spécialisée dans les essais à tendance libertaire. Elle a été créée en 2004-2005. Elle n'est pas très vieille, hein, par deux militants libertaires, Guillaume Carnino, ingénieur informaticien et enseignant-chercheur en histoire des techniques, et Cédric Biagini, qui est un graphiste indépendant, militant de l'offensive libertaire et sociale, et selon le philosophe Marc Ayadi, elle s'efforce, cette maison, de promouvoir une pensée critique à l'égard des discours aveuglément technophiles qui dominent l'idéologie contemporaine, et elle publie notamment alors différentes collections, mais aussi la revue annuelle Bras Zéro. Alors dans ce recueil d'essais, on va parler de la quatrième de couverture. Hein. L'auteur, qui est l'auteur du Meilleur des mondes, le fameux livre Le Meilleur des mondes, fait une critique de la société technicienne totalisante. Donc je vous livre la quatrième de couverture. Le progrès est une chose délicieuse, se félicitent les bienheureux du Meilleur des mondes. Hélas, il a un prix. Le progrès se paie de servitude et de régression. La croissance illimitée conduit à la surexploitation de la nature. La population vit dans un milieu artificialisé. L'industrie du divertissement colonise le temps libre, entraînant passivité et nivellement des esprits. La production massive de marchandises standardisées exige l'enrichissement des consommateurs, assaillis de publicité. Le travail rationalisé perd en créativité. Le confort apporté par les machines amollit les corps et atrophie la sensibilité. Alors que le pouvoir ne cesse de se concentrer, les individus conditionnés perdent leur autonomie. Dans un tel monde scientifiquement organisé, comment préserver des conditions d'existence dignes ? Aldous Huxley refuse l'assujettissement de la personne à une société technicienne totalisante, n'ayant pour finalité que l'efficacité. Les hommes ne sont pas destinés à devenir, ouvrez les guillemets, les rouages d'une machine industrielle, fermez-les. Contre le déchaînement de la puissance, l'illustre écrivain appelle à la mesure, soutient une philosophie pacifiste, prône la décentralisation et l'autogestion, défend la liberté et la coopération. Ses textes lumineux, pour la plupart inédits en français, révèlent un immense penseur de l'écologie qu'il considère comme le problème fondamental de notre temps. Voilà pour ce qui est de cette quatrième qui décrit bien effectivement l'ambiance générale du livre. Table des matières, eh bien, outre une très belle préface de Pierre Tessier qui a fait le choix des articles, il y a trois parties. La première, c'est la standardisation des esprits. Le deuxième, c'est le règne de la machine. Et le troisième s'intitule « Vers une écologie politique ». Alors, quelques lectures peut-être pour, encore une fois, vous donner un peu le ton du livre. Alors, je cite, hein, je prie au hasard, page 116, c'est dans la deuxième partie qui s'intitule, comme je viens de vous le dire, « Le règne de la machine ». Citation. « Mais, en dépit de la mise en garde de Ben Johnson, c'est précisément ce que nous, contemporains de l'âge industriel, avons naïvement imaginé. » Parce que nous utilisons 110 fois plus de charbon que nos ancêtres, nous nous croyons 110 fois meilleurs sur le plan intellectuel, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Remarquons en passant que le développement matériel colossal des dernières années est destiné en toute probabilité à rester un phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capital. Le charbon, le pétrole, le nitrate, les phosphates que nous utilisons avec tant d'insouciance ne pourront jamais être remplacés. Lorsque les ressources seront épuisées, il faudra faire sans. Nous sommes parvenus à la prospérité aux dépens de nos enfants. » Bon, ça continue sur la même veine. Autre citation, on va prendre un peu plus loin, j'en ai sélectionné une qui se trouve à la page 154, voilà, je la trouve. Alors, ouvrez les guillemets. En Occident, les garanties de la liberté personnelle qui ont été acquises de haute lutte n'ont, jusqu'à présent, pas été neutralisées par les conséquences politiques de la technologie avancée. La science appliquée n'a fait que renforcer le pouvoir de la minorité régnante, mais le droit a permis de protéger les libertés du grand nombre et enfin d'instaurer à cet égard une double garantie. De puissantes institutions, syndicats, coopératives, partis politiques et groupes de pression, sont venus jouer le rôle de contre-pouvoir permettant de contrebalancer l'influence des industriels, des hauts fonctionnaires et des militaires qui possèdent ou qui peuvent mobiliser la ressource de la technologie moderne. Là où, comme en Russie ou dans l'Allemagne nazie, les masses n'ont pas été protégées par le droit et se sont montrées incapables de concevoir ou de conserver leur propre système de pouvoir défensif, les prophéties de Tolstoï se sont révélées parfaitement exactes. Chaque victoire sur la nature a été dans le même temps une victoire du petit nombre sur le grand. Et pendant tout ce temps, la machinerie de production de masse ne cesse de se développer, de gagner en sophistication, tout en devenant toujours plus coûteuse. En conséquence, elle est toujours plus l'apanage exclusif des détenteurs du pouvoir financier et du pouvoir politique. En un mot, des grands affairistes et des gouvernants les plus puissants. Jamais nous avons eu autant besoin de faire preuve de l'ancienne et éternelle vigilance. Voilà pour le ton du livre. Vous voyez, un ton extrêmement moderne et déterminé. Alors, il n'y a pas de conclusion dans ce livre, mais il y a une introduction, je vous la citais tout à l'heure, qui est faite par Pierre Tessier, qui est journaliste à la Décroissance et qui dirige la collection Le Pas de Côté à l'Échappée, où a été, bien sûr, édité ce livre. Donc, il a préfacé cet essai et d'entrée, il donne le ton. Alors, je vais vous donner... sa préface est extrêmement intéressante. Je vous donne les quelques premières lignes. L'œuvre prolifique d'Aldous Huxley est trop souvent occultée par son roman Le meilleur des mondes. Il faut dire qu'un tel monument de la littérature a de quoi fasciner. L'écrivain anglais y exprime, ce sont ses mots, l'horreur absolue que lui inspire la perspective d'une organisation sociale hyper rationnelle. Il s'inquiète du bouleversement de la condition humaine engendré par le développement scientifique. En examinant les idées en vogue dans l'intelligentsia du début des années 30, l'eugénisme notamment, mais aussi la technocratie, cette utopie d'ingénieurs rêvant d'administrer efficacement les hommes et les choses pour maximiser la productivité, accélérer l'expansion économique et augmenter le niveau de vie. Alors pourquoi faut-il le lire ? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Eh bien d'abord, c'est la première fois que sont traduits en français de nombreux textes de Huxley, un garçon qui avait un fantastique sens de l'anticipation, vous l'avez un peu senti, qui décide notre monde et qui nous parle de celui qui nous attend. C'est une critique implacable faite avec le style littéraire d'un grand écrivain, du déchaînement de la puissance et de la croissance illimitée. Aldous Huxley, que effectivement encore une fois les lecteurs connaissent essentiellement pour son œuvre de science-fiction et particulièrement pour Le meilleur des mondes, ne s'est pas limité à ça. Il a aussi une œuvre d'essayiste et de précurseur de l'écologie. Alors, ce qui est assez fascinant, ce sont des textes écrits il y a plusieurs dizaines d'années. Pour autant, ils sont d'une fraîcheur et d'une actualité stupéfiante. On dirait qu'il les a écrits hier. Franchement, c'est saisissant. Cet homme était véritablement un visionnaire. Il avait tout compris, tout pressenti quant au développement futur de nos sociétés. Il nous avait avertis, nous avait mis en garde. Malheureusement, une fois de plus, les hommes n'ont pas voulu entendre, c'est cité pour les uns, déni pour les autres, et parfois les deux à la fois. Rappelons que ces textes, ils sont tous retracés avec leur origine et leur date d'écriture. Ce sont souvent dans les années 1930. Encore une fois, je viens de le dire, je le répète, on dirait que ça a été écrit la veille. C'est un grand exploit, me semble-t-il, dans la prévision de l'avenir. Et en dehors du plaisir qui est procuré par ces textes, encore une fois, fort bien écrit, eh bien, il nous dit qu'il est peut-être encore temps d'agir et il nous montre la direction. Cet été, c'est marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.